Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Dans le Nouveau Testament, l'Église du Christ est présentée de différentes manières afin de permettre de la comprendre plus aisément. L'Esprit Saint choisit des figures telles que corps, famille, épouse et royaume pour décrire l'Église sous ses différents aspects. Le terme « corps de Christ » évoque immédiatement son unité, sa filiation avec le Fils de Dieu, le fait que lui seul en est la tête. L'expression « famille de Dieu » fait penser à l'amour et à la fraternité se manifestant d'une part entre les membres de l'Église et d'autre part entre ceux-ci et leur Créateur. Quel mot peut faire naître davantage en nous l'idée du grand amour et des soins qui s'y rattachent que le mot « épouse » De même, « royaume de Dieu » exprime la certitude que l'Église est bien une monarchie spirituelle sous laquelle règne Jésus. Chacune de ces expressions se rapporte à une même et unique institution divine, que le Nouveau Testament définit par les termes « Église du Christ ». Dans l'Ancien Testament, de multiples prophéties parlent du royaume que le Messie allait établir lors de sa venue sur terre. Il serait impossible de les citer toutes pour des raisons évidentes, mais seulement deux ou trois d'entre elles suffiront déjà à exposer l'immense espoir animant anticipativement le peuple juif. Le prophète Ésaïe disait « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une prophétie concernant le futur règne du Messie ainsi que du royaume qu'il instituerait. Ce royaume, dit la prédication, sera exalté par-dessus les autres, par-dessus toutes les nations qui y afflueront. Il serait fondé à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Daniel, lui aussi, prophétise de façon frappante en dévoilant au roi Nebuchadnezzar le songe que ce dernier avait eu et oublié. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. La tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsque le pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Ils devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel interpréta alors ce songe pour le roi. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera l'airain et qui dominera sur la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brisera tout, il brisera et rompra tout. L'histoire enseigne qu'après l'anéantissement de l'Empire babylonien, trois autres empires se sont succédés, le Perse, le Grec et le Romain. Ce dernier serait donc le quatrième royaume cité par Daniel dans son explication du rêve de Nebuchadnezzar. L'interprétation du songe se poursuit ainsi. Dans le temps de ses rois, c'est-à-dire les souverains de l'Empire romain, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Nombre de prophéties de l'Ancien Testament annonçaient l'avenue du Messie et l'établissement de son royaume. Il n'est par conséquent pas étonnant de constater combien plus tard le peuple écoutait avec zèle et avidité même les prédications de Jean-Baptiste disant, entre autres, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Les Juifs attendaient ce royaume et leurs ancêtres l'avaient attendu avant eux. Jésus, lui aussi, proclamait sa proximité. Il enseignait notamment aux apôtres de prier pour que ton règne vienne. Et plusieurs paraboles ont le royaume pour sujet. Il apprenait souvent au peuple la marche à suivre pour y parvenir. Et lorsqu'il donna à ses disciples l'ordre d'aller prêcher parmi les Juifs, ce fut pour dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Cependant, après tous ces enseignements, le royaume n'était pas encore fondé lorsque Jésus fut crucifié. Le peuple juif aurait avec joie porté le Christ en triomphe pour le sacré roi, mais tel n'était pas le genre de royaume qu'il était venu établir. Les Juifs, y compris ses propres disciples, désiraient, attendaient le rétablissement de l'Israël d'autrefois, un royaume terrestre, charnel, puissant, comme celui de David et Salomon. La déclaration nette et péremptoire du Fils de Dieu, « Mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est point d'ici-bas », ne trouva aucun écho. Alors, cet homme qui ne voulait pas répondre aux aspirations de la nation juive et bouleversé malgré tout le système religieux établi, fut traîné devant Pilate pour y être crucifié. Ce jour-là fut marqué de noir pour les apôtres et l'amertume s'empara d'eux. Leurs espoirs quant à la fondation d'un royaume par Jésus s'écroulaient. Et lorsque le Fils de Dieu fut ressuscité et qu'il apparut à ses disciples, la question ressurgit encore. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Eux non plus n'avaient pas compris que tout cela concernait non pas le matériel, le temporel, mais un royaume céleste et spirituel. Ce n'est que quand le Saint-Esprit descendit sur eux et les éclaira qu'ils se rendirent compte de leur immense méprise. En faisant le rapprochement entre plusieurs versets, il est possible de déterminer avec exactitude le moment où fut établi le royaume de Dieu. Il ne peut être question de la période durant laquelle Jésus exerça son ministère public. Par contre, il avait dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Ceci se situait quelques mois avant sa crucifixion. Plus tard, après sa résurrection, il apparaît aux apôtres qui l'interrogeaient une nouvelle fois à ce sujet et il répond, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Par conséquent, le Saint-Esprit, la puissance et le royaume vont se situer en même temps. La chose se vérifie lorsque s'accomplissent ces promesses. En acte 2, on peut voir l'Esprit, la puissance et le royaume se manifester et s'établir à la fois au jour de la Pentecôte. Les quatre premiers versets de ce chapitre disent clairement ceci. Le jour de la Pentecôte, ils, c'est-à-dire les apôtres, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pierre se met alors à prêcher. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, dit la Bible. C'est donc bien à la première Pentecôte, après la résurrection du Christ, alors qu'il était monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu et cueillir la gloire et régner, que l'Esprit et le royaume vinrent avec puissance. C'est ainsi que s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, disant que de Jérusalem sortirait la parole de l'Éternel, et celle de Daniel, annonçant que cela surviendrait durant le quatrième royaume, c'est-à-dire l'Empire romain. Ce n'est qu'après le récit des événements survenus le jour de la Pentecôte que la Bible se met à parler de l'existence réelle du royaume. L'apôtre Paul, en écrivant aux Colossiens, puis aux Hébreux, leur dit respectivement, « Rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. L'apôtre Jean, quant à lui, dit textuellement, qui n'a part à la tribulation et au royaume. Il ne fait aucun doute que le royaume de Dieu était déjà fondé au premier siècle et que tous les membres de l'Église que Jésus a fondée en font partie comme citoyens à part entière. L'Église de Christ et le royaume de Dieu sont en fait une seule et même institution divine. Jésus, parlant à Pierre, lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Puis plus tard, il annonce en ces termes lors d'une réunion avec ses apôtres, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » En Actes 2, 47, il est par contre dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La preuve en est que Paul, fustigeant l'attitude des chrétiens de Corinthe, leur demande « Méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Ceux qui sont membres de l'Église sont citoyens du royaume des cieux. Cela est clair et évident. Peut-être que pour vous, un jour nouveau éclaire maintenant la notion du royaume de Dieu et sa concordance avec cette Église que Jésus s'est acquise par son propre sang. C'est notre souhait le plus cher. Possédez-vous une Bible? L'avez-vous déjà lue, étudiée, méditée? Je vous propose, si vous ne possédez pas cet ouvrage, de participer à une sorte de concours facile et fascinant qui vous permettra d'en gagner une gratuitement. Oui, cela existe encore, des gens qui se refusent à vendre quoi que ce soit. Une fois en possession de la Bible, parole de Dieu, vous pourrez librement, sans contrainte aucune et gratuitement toujours, commencer à l'étudier par correspondance. Je veux être à vos côtés, vous aider à mieux comprendre Dieu et à le renfermer là, dans votre cœur. Vous ne pouvez imaginer la joie, la paix, la sérénité qui vont être vôtres en ce moment-là. Ce que cela coûte, rien. Ou plutôt si, vouloir, c'est tout. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement entendu, car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Pour voir que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, 9h. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je retirerai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime.